Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La Constellation.
Semaine de Saint-Valentin, les histoires ne sont pas douces au théâtre, sinon nous on s'emmerderait vraiment avec des histoires douces. Bienvenue à La Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus, comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30, la petite demi-heure pour épingler les créations et les reprises qui ont lieu à Bruxelles, sur la scène bruxelloise. Alors j'ai à mes côtés Nicolas Niazi. Bonjour Nicolas. À la
bonjour, bonjour.
Et alors par téléphone et par enregistrement, Catherine et Élie, parce qu'à Radio Campus, même quand les gens ne sont pas là, ils sont quand même là à les comprendre. Merci la technique. Alors ce soir au programme, qu'est-ce qu'on a? On a Rue des Jonquilles, René Bizac, Suzy Falk. Alors Suzy Falk est une de nos comédiennes âgée qui a décidé de prendre congé, et alors ça fait un événement. On va voir si ça vaut le coup. C'est René Bizac, rue des Jonquilles, au centre culturel Jacques Franck. On ira du côté du théâtre de la Place des Martyrs avec Création Milarepa, Eric et Manuel Schmitt, mise en scène par Christine Delmotte. On ira faire un tour du côté du public, box-office de David Mamet, que du théâtre classique. Et on ira faire un tour du côté de la danse au Marny, danse contemporaine pure avec un duo, Bud Blumenthal et une chorégraphe danseuse espagnole, Manuela Nogales, qui nous présente un spectacle Dentro por fuera, fuera por dentro. Mais de ce pas, je me tourne direct au cabinet du téléphone, disons, et Elisabeth, bonjour.
Bonsoir
Elisabeth, bonjour. Alors toi, tu es partie voir cette fameuse rue des Jonquilles, René Bizac, et alors l'adieu, on va dire, de Suzy Falk.
Oui, ben voilà. Alors j'avoue que j'ai vraiment été voir ce spectacle-là parce que c'était l'occasion de voir Suzy Falk encore une fois, que c'est quand même une très très grande dame de nos planches. Faut préciser quand même qu'elle a 88 ans, qu'elle est sur scène depuis 1945 de manière quasi ininterrompue, qu'elle a fait plus ou moins 300 pièces derrière elle. Donc depuis 1945, pour vous situer, c'est un petit peu l'époque de la création du Rideau, qui était en 43.
Mmh. Le premier théâtre belge.
Voilà, en 51, on a les galeries qui sont réaménagées et qui démarrent aussi. Il y avait à l'époque juste le conservatoire, enfin c'était une autre époque, mais là, donc c'est vraiment tout un pan de l'histoire de notre théâtre qu'elle représente avec une énorme légèreté comme ça et beaucoup de bonheur. Et c'est vrai que je l'ai retrouvée avec beaucoup de bonheur dans ce texte, mais malheureusement j'ai pas trop accroché au texte et au reste du spectacle, mais je vais dire qu'elle le traverse avec une présence magnifique, une infinie légèreté, une infinie force, une justesse absolue. C'est pour moi, c'est une très très grande leçon.
Est-ce que Rue des Jonquilles a été écrit pour elle?
Je ne pense pas que ce texte ait vraiment été écrit pour elle, mais il lui a été proposé. Je pense qu'elle a aussi couru un petit peu après René Bizac aussi pour lui tirer la manche, à lui dire oui, vraiment, moi ça m'accroche, ça me plaît, et puis il faut plus attendre.
Et ça raconte quoi?
Alors ben, c'est l'histoire rue des Jonquilles, qui est, je pense, une rue qui existe vraiment à Paris.
Oui.
Et c'est parti d'un fait divers apparemment réel aussi, puisque c'est l'histoire d'une petite vieille qui se trouve, voit sa maison qui va être expropriée pour qu'on fasse la place à une cité, qui est une cité destinée à l'émigration, en fait. Mm-hmm. Alors dans le spectacle, je ne sais pas dans la réalité, mais dans le spectacle en tout cas, cette petite vieille fait appel à quelque chose qui est très contemporain de nos jours, c'est à une émission de télé-réalité pour essayer de sauver un petit peu sa maison, et donc on la voit en conversation avec le présentateur de cette émission, etc. Et puis arrive un politicien, et puis arrive après un policier. Donc on a un petit peu toutes les composantes là qui font que cette petite vieille va essayer de défendre son bien.
C'est un théâtre de débat ?
C'est un théâtre de débat, je ne dirais pas jusque-là. Je pense que c'est une pièce qui veut nous dire quelque chose. Par contre, moi, j'ai pas tout à fait ressenti ce qu'on voulait nous dire. Enfin, si la pièce se termine évidemment sur une dénonciation de ce qu'on peut appeler le délit de faciès, parce qu'il y a quand même encore un cinquième personnage dans l'histoire, qui est justement quelqu'un qui est issu de l'immigration, qui déboule un jour comme ça après dans la maison de la vieille. Et on comprend après que c'est après avoir incendié le commissariat du quartier. Et c'est là que pour moi ça commence à être confus, parce que pourquoi est-ce qu'on a incendié le commissariat du quartier alors qu'on veut construire une cité qui va améliorer la vie des gens? Là, je trouve que c'est un peu difficile à suivre, en fait, pour quelque chose qui se veut quand même un petit peu réaliste.
Et comment ça se met en place sur scène, justement? C'est une petite scène, hein. Ils sont à combien?
Alors, ils sont à 5, et c'est vraiment une belle brochette de comédiens, comme on peut dire, puisque Suzy Falk est entourée de Christian Crahe, de Benoît Verhaert, de John Dobrynin, et j'oublie évidemment le dernier, je n'ai plus son nom en tête, qui est un petit peu plus jeune. Et donc ce sont tous d'excellents comédiens. Alors le principe, c'est que la scène est unique et qu'on est à la fois tout le temps dans la maison, comme on peut être dans les studios de la télévision, comme on peut être au commissariat, avec simplement un petit meuble qui indique qu'on est dans la maison, et puis ça se déplace et ça se met à lire. Donc la scénographie est assez simple. Il y a aussi un fond d'air où on devine un petit peu l'émeute auxquelles, qui font référence à des émeutes qui ont existé à Paris, auxquelles l'auteur a assisté en 2005. Et donc, tout ce texte tire un petit peu vers essayer de nous dire quelque chose. Et puis, sur la fin, c'est clairement une dénonciation du délit de faciès. Mais je suis pas arrivée à y croire, parce que c'est amené par un policier un petit peu fantasque, parce que c'est amené par un politicien qui utilise des mensonges, mais c'est tellement gros que, voilà, encore une fois, je pense qu'il y a à la fois une option réaliste, mais auquel je crois pas. Est-ce que c'est... Enfin, voilà. Donc, il y a quelque chose auquel j'ai pas accroché dans le
alors,
texte du tout.
On sait l'âge de Suzy Falk. Est-ce qu'il y a un souffleur ou une souffleuse qu'on fait
non,
avec les...
Non, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'elle a joué le jeu jusqu'au bout et qu'elle a voulu tout faire toute seule. Et franchement, le souvenir comme ça que j'ai de ce spectacle, c'est elle. On la suit tout le temps avec cette présence qui est vraiment une force, mais c'est pas une force massive. Il y a quelque chose de léger à la fois, et puis une présence réelle, et je trouve que à aucun moment elle n'est dans la caricature, elle est dans une justesse absolue. Vraiment, moi, c'est vraiment une comédienne que bon, j'ai vu, je pense que je suis pas la seule quand même, pendant ces 20 dernières années, avec toujours autant de plaisir. J'ai des images comme ça qui me restent de tous les spectacles que j'ai pu voir d'elle, et c'est vrai que j'ai vraiment envie de lui dire, je sais pas, moi, j'ai envie de l'embrasser, de lui dire merci, parce que
Elisabeth,
c'était un beau cadeau, quoi.
On va te laisser dans l'admiration et la nostalgie. Voilà. Donc, offrez un album de Suzy Falk à Elisabeth.
Oui, elle a chanté.
C'est un album photo. En tout cas, le spectacle s'annonce déjà complet pour les deux prochains jours. Hein.
Voilà,
donc,
oui,
les
oui.
gens vont voir, en fait, Suzy Falk. Hein. Il y a un événement autour de ça, entre guillemets.
Voilà, mais il reste encore le 18, et puis ça va tourner.
Et puis ça va tourner, hein,
oui.
C'est fait pour.
Voilà. Théâtre de la Balsamine, Espace Toots, Maison des Cultures de Molenbeek, et Le Rideau qui s'invite au Var.
Voilà, donc la rue des Jonquilles de René Bizac, où joue Suzy Falk. Elisabeth, c'est qui met en scène? Du coup, on a oublié le metteur en scène dans l'histoire.
Mais moi, j'ai oublié aussi.
C'est René Bizac.
C'est René Bizac, ok.
Il a mis en scène. Avec une dramaturgie de Yasmina Douyeb.
Ah, et Yasmina Douyeb à la dramaturgie. Ouais. Ok. Merci Elisabeth, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bien sûr.
Voilà.
À bientôt.
Alors, la rue des Jonquilles, on va où, Nicolas? Est-ce qu'on irait voir Catherine? Catherine,
bien sûr.
Qui, elle, est partie voir pour nous Mila Repa d'Éric Emmanuel Schmitt. Tant qu'on est dans le classique, on reste René Bizac, Éric Emmanuel Schmitt. Centre culturel Jacques Franck, Théâtre de la Place des Martyrs, et ici c'est une mise en scène de Christine Delmotte. Alors Catherine a enregistré son billet tout à l'heure, on l'écoute, on va voir si c'est un coup de cœur.
Bonjour Catherine.
Bonjour Nico.
Eh bien, tu es allée voir pour nous « Mila Repa au Théâtre des Martyrs », un texte d'Éric Emmanuel Schmitt mis en scène par Christine Delmotte.
Oui, en effet. Alors, on savait, Christine Delmotte en quête de spiritualité depuis quelques années, avec Nathan Le Sage notamment, mais elle avait aussi mis en scène Sur les traces de Siddhartha, consacrée à la vie de Bouddha. Et voilà, avec Mila Repa, elle continue son chemin bouddhique, puisque c'est l'histoire de... de Milarepa, célèbre ermite tibétain du XIe siècle. Alors, en effet, c'est un conte d'Éric Emmanuel Schmitt dans le cadre de son cycle de l'invisible, dont on connaît surtout Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la Dame Rose. Voilà, sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'une histoire entre un aîné plein de sagesse et un enfant malheureux, mais c'est un conte directement philosophique, donc sur le bouddhisme, sur le bien, le mal, le détachement, etc. Des thèmes très à la mode.
Et la forme ici utilisée est un seul en scène, apparemment.
C'est un seul en scène, porté par Patrick Brühl, qui ne démérite pas du tout, mais peine quand même à rendre vivant un texte extrêmement lisse et prévisible. Donc l'histoire, c'est celle de Simon, un homme du XXIe siècle qui fait un rêve étrange et qui le lendemain découvre par le biais d'une étrange vieille dame dans un café qu'il est la réincarnation de Svastika, l'oncle de Milarepa, qui en fait est condamné à raconter 100 000 fois son histoire et celle de son neveu pour briser le cycle des renaissances et trouver la paix pour son âme. Donc voilà, on ne sait pas s'il en est déjà à la 100 000e fois, mais en tout cas, il est là devant nous et il nous raconte cette histoire. Il se démultiplie évidemment puisqu'il est à la fois le Simon du XXIe siècle, il est Svastika et il est Milarepa. Voilà, donc c'est parfois un peu confus d'ailleurs. Et l'histoire est cousue de fil blanc. On a le cocktail habituel de ce genre de conte bouddhiste avec des yams et des positions du lotus et des monastères et des méditations dans les grottes et des lamas. Et voilà, c'est. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a aucune aspérité.
Tous les ingrédients de la recette bouddhiste sont là.
Voilà, et évidemment, Milarepa, après avoir cherché la sagesse auprès du lama Marpa, va trouver la béatitude. Donc voilà, ça se laisse regarder, ça ne dure pas très longtemps puisque c'est un seul en scène. Il y a un très beau travail de vidéo, très mystérieux, très délicat, très soyeux, de Caroline Serreghetti, qui rend un petit peu plus intéressant ce conte. Mais sinon, c'est à mon goût beaucoup trop gentillé et prévisible.
Finalement, encore une fois, avec ce texte, Éric Emmanuel Schmitt ne nous surprend pas.
Non, c'est... honnêtement, Oscar et la Dame Rose, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est mignon. Bon, il y a toujours ce côté moralisateur un petit peu dérangeant, mais dans ces contes-là, il a une plume ludique, espiègle, tandis qu'ici, ça n'a pas beaucoup d'imagination. On tombe très vite dans les poncifs du style le bien demande plus de volonté que le mal, ou rien ne pèse plus quand on sait que tout n'est qu'illusion. Voilà, on a l'impression qu'il a piqué des préceptes comme ça sur Internet et qu'il les met... qu'il les met dans un conte qui lui a sans doute pas demandé beaucoup d'efforts.
Ce texte a nécessité une adaptation. Je ne crois pas que ce soit un texte de théâtre au départ.
Non, mais puisque c'est la forme du conte, c'est à mon avis, il n'y a pas eu besoin d'un gros travail d'adaptation, non.
Voilà. Merci, Catherine. On peut voir ça jusque quand ?
Alors, c'est à voir jusqu'au 5 mars au Martyr. Et vous pouvez appeler le 02-223-3208.
02-223-3208. Ou merci, Catherine. À bientôt.
Merci.
La constellation.
Nicolas, comment ? Comment ? Une nouvelle sensation dans la chanson française qui arrive avec son premier album. C'est un photographe à l'origine et il vient avec notamment ce morceau « Je te veux » extrait de l'album Nicolas Comment.
Et moi je veux ta critique de box-office de David Mamet, Nicolas, que tu es parti voir pour nous au théâtre Le Public.
Une production du théâtre du Lurcenaire, ça nous vient donc d'Outre-Quiévrin, avec notamment deux comédiens français et une comédienne belge qui complète le trio qui s'appelle Nina Drek. La comédienne belge. C'est une jeune comédienne. Hein. Elle est sortie de l'IAD il n'y a pas si longtemps que ça. Et on retrouve à ses côtés Francis Lombraille et Philippe Sivy. Comme ça, on a déjà fait toute la distribution. C'est un texte de David Mamet qui nous emmène dans le milieu du cinéma hollywoodien. Tiens donc, ça vous rappelle quelque chose ? Enfin, c'est l'histoire de Charlie Fox et de Bobby Gould qui sont deux producteurs dans une société de production de films, mais plutôt des films du box-office, hein, qui y a des films d'action apparemment plutôt, et qui ne fait n'est pas dans la dentelle. Et Bobby Gould est très content parce qu'il vient d'accéder à son nouveau poste de producteur en chef. Et son ami Charlie Fox est donc maintenant son subordonné. Mais il y a un lien d'amitié qui est encore très fort et il ne se considère plus comme chef et subordonné. C'est vraiment la bonne entente. Charlie Fox, lui, a beaucoup de chance puisqu'il a la possibilité de faire jouer un acteur très connu du studio d'en face dans une des prochaines productions de la compagnie pour laquelle il travaille. Et donc, ils en discutent et ils se disent, là, c'est vraiment un beau coup à jouer pour la société.
Ils ont débauché un comédien star de
voilà,
la concurrence.
Voilà, tout à fait. C'est ça qui se joue. Voilà, donc... Voilà l'enjeu, ils vont arriver à un rendez-vous avec cette personne pour discuter des modalités de tournage et de production. Ce qu'il y a par ailleurs, c'est que Bobby Gould a une nouvelle secrétaire intérimaire qui vient remplacer, qui s'appelle Karen, et une jeune intérimaire convaincue que le cinéma, lui, peut changer le monde. Elle est un peu mal tombée dans cette société de production qui veut faire vraiment que du fric avec les films qu'elle produit. Entre les deux hommes se joue alors un jeu qui va séduire la première de la secrétaire, et Bobby Gould dit « Si j'arrive à la mettre dans mon lit ce soir, tu me dois... » $500, quelque chose comme ça, en fait, voilà. Donc, il invite, sa secrétaire, après lui avoir confié un synopsis d'un film qu'on lui a donné, mais il sait que ça n'aboutira jamais, c'est trop philosophique et trop psychologique pour sa société de production. Arrive cette secrétaire chez lui, elle essaie de le convaincre, de dire « Ah oui, non, c'est ce film-là qu'il faut jouer, c'est tellement beau, tellement puissant !» Et se joue donc un jeu de puissance entre la jeune femme et Bobby Gould pour essayer de le convaincre. Et je vous laisse deviner la suite. C'est sur l'oreiller, évidemment, que va se régler ce problème. Évidemment, ça va poser un problème le lendemain avec Charlie Fox, qui, lui, était plutôt pour son film à grand succès avec son acteur qu'il avait débauché ailleurs.
On a déjà perdu le fil. On se croirait dans un film. Hein. Donc, mais c'est voilà. Box-office. C'est une comédie, hein, votre vie?
Alors, c'est plutôt une comédie, hein, évidemment. Ça dure à peu près 1h30. Et ça veut nous montrer que, eh bien, apparemment, ça veut au départ nous montrer que le monde du cinéma est impitoyable. Et moi, je dis non. Ça, évidemment, c'est évoqué, hein, mais ce n'est pas le thème central. Évidemment, c'est plutôt les relations hommes-femmes dans l'entreprise, l'ambition de la femme qui veut à tout prix apparemment monter dans la société et des hommes avec un certain point de misogynie, je trouve, parfois, dans l'attitude qu'ils adoptent par rapport à cette femme, évidemment. Et malheureusement, la sauce ne prend pas. Pourquoi ? Parce que je trouve les dialogues n'étaient pas assez percutants. Ça se veut drôle. Et
il faut de la réplique, là. Il faut un jeu de réplique et cinglant.
Et malheureusement, ça ne se répondait pas assez. Il y a un peu de burlesque apporté par Nina Drake dans son rôle, mais c'est encore un peu trop léger pour donner du peps et du piment à ce box-office.
Qui met en scène cette chose ?
C'est Anne Bourgeois. Donc, elle nous vient de France, hein, okay. Certainement, de cet accueil.
Et c'est dans la petite salle hein, du public.
La petite salle du public. Moi, je trouve que c'est pas une salle très idéale parce qu'il y a
salle des voûtes.
Non, c'est l'autre, la petite, avec les gros pylônes. Là, donc, si on est mal placé, c'est pas top. Et je vais dire que la sauce n'a pas pris auprès du public non plus.
Non plus. Qui est un public bon. Alors, je dirais, on peut y aller franchement. Box office à éviter ou à voir, Nicolas?
Moi, je dis, oui, pourquoi pas. Hein.
Non, mais le temps, il n'y a pas de pourquoi pas. À un moment donné, Nicolas, quand j'entends, je dirais à éviter, mais je n'ai pas vu le spectacle.
Oui, mais malheureusement, moi, je dirais, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Et malheureusement, quand ça ne va pas au bout des thèmes que ça effleure uniquement, ça ne marche pas et la sauce ne prend pas, évidemment. Donc, la pièce passe sans ennui, mais...
Ok. On subit. Allez voir quand même. Alors, Box Office, il y a de très longues dates. Hein.
Oui, comme au public, le public le fait, c'est jusqu'au 26 mars au Théâtre Le Public, www.lepublic.be.
Alors moi, je vous emmène voir peut-être le seul coup de cœur de l'émission. Enfin,
on aurait été dur hein, cette semaine.
Moi, j'ai été voir hier Dentro per Fuera, Fuera por Dentro, Entrer pour sortir, Sortir pour fuir. C'est une chorégraphie de Bud Blumenthal avec Manuela Nogales. Manuela Nogales est une chorégraphe danseuse d'Espagne et elle a voulu faire un duo, confronter son travail avec celui de quelqu'un d'autre et notamment un homme. Et ici, elle a pris Bud Blumenthal, un chorégraphe de chez nous. C'est un Américain qui est ici depuis les années 80. C'est vraiment une cheville ouvrière de la danse contemporaine en Belgique. Et ils ont créé ce duo, on va va dire plutôt un trio, parce qu'il y a une violoncelliste sur la scène, et c'est une espèce de dialogue, chacun dans sa discipline, chacun dans son vocabulaire de danse, voir comment ça se marie, et c'est de la danse contemporaine pure. Alors faites attention, ceux qui ne sont pas habitués, il faut vraiment se laisser rentrer dans le spectacle. Si on va avec des a priori, ça ne va pas. Rien que le début, c'est, ils dansent, chacun, ils sont à trois, ils viennent sur scène, ils prennent chacun place dans un tabouret, on se dit voilà, ça va être un truc très, très classique, et puis un par un vont dans un espace de lumière bien défini, danser dans leur vivre, en tout cas dans leur espace, danser dans leur espace, et après se rencontrer. Et cette danse-là se fait sans musique. Alors moi je trouve que c'est des petits bijoux au théâtre ou en danse, quand la danse se fait sans musique, parce qu'on est tellement habitué à du son. Et puis à un moment donné, la violoniste Marie va sur scène, on dirait elle aussi une chorégraphe, et il y a un dialogue qui se crée entre les deux danseurs, et parfois avec la troisième, on a l'impression qu'elle fait partie aussi de cette chorégraphie, que les danseurs sentent la musique. On est vraiment dans le sensible, dans quelque chose de très intimiste. Ce sont des mouvements qui essayent de se rapprocher, se détacher. Eux parlent dans leur note d'intention du tai chi, de cette voilà, où on pousse un mouvement, on essaie de se rattraper. Il y a toute une ambiance de lumière qui est aussi exceptionnelle. Par exemple, à un moment donné, ils sont tous les trois allongés dans des carrés de lumière qui se déplacent en même temps que eux. Ils se retrouvent à un moment donné face à face, dos à dos, le danseur et la danseuse. Lui, il est tout en noir, elle a une robe rouge. Il y a une sensualité comme ça, qui essaye de se chercher, ou en tout cas un dialogue entre les deux danseurs dans des mouvements. Lui, il a des mouvements beaucoup plus fluides, elle a beaucoup plus des mouvements saccadés, en faisant notamment certaines positions avec des arrêts sur image. Quand on rentre dans le spectacle, quand on rentre dans cette chorégraphie et ce dialogue à deux qui est très intime, quelque chose se passe, comme on dit quand on va au spectacle. Mais il faut vraiment se laisser aller à cette rencontre et voir un peu ce dialogue entre ces deux-là. Voilà, ça a été créé à Séville en novembre. Ils ont eu quelques représentation, il faut juste que ça se rôde un peu pour que le dialogue de face à face entre eux fonctionne bien. Mais si vous voulez voir à quoi ressemble la danse pure, allez faire un tour à Dentro por Fuera, Fuera por Dentro, c'est jusqu'à samedi. La musique, c'est du violon et une musique contemporaine, du violon qui est mis en écho, transformé. C'est un beau petit bijou, même la lumière, tout est bien soigné dans ce curieux dialogue. À voir Gio Marni jusque samedi. Est-ce qu'il nous reste 5 minutes?
On va les prendre.
Alors on va les prendre pour quelque chose de très, je dirais même pas cochon-cochon, mais pour quelque chose de osé. Allez, pour la Saint-Valentin, on voulait vous parler de la reprise de Ceci est mon corps d'Isabelle Wery, qui se déroule en ce moment même au Théâtre de la Vie et qui dure jusque la semaine prochaine. Donc Ceci est mon corps, c'est un travail de réécriture qu'elle a fait à partir du livre de La vie sexuelle de Catherine Millet, La vie sexuelle de Catherine M, écrite par Catherine Millet, qui explique vraiment dans le détail et d'une façon très froide et chirurgicale toutes ces histoires de fesses, hein, se faire prendre n'importe où, comment, vraiment dans le détail. Elle s'est inspirée de ce livre-là, elle en a fait une pièce où elle met son humour et notamment son héroïne fétiche, hein, Isabelle Wery est une héroïne fétiche, qui est Yvette à la fermette et qui découvre toute la sexualité, la ferme donne beaucoup d'imaginaire animalier et très haute. Voilà. Alors nous, on a eu l'occasion de l'interviewer, lui demander pourquoi ce texte et ses impressions, pourquoi avoir travaillé Ceci est mon corps, avoir donc, je le disais, au Théâtre de la Vie jusque la semaine prochaine. Et c'est sur ces notes qu'on vous quitte. Et vous entendez bien à la fin, elle nous lit quelques extraits de ses écrits Divagation érotique qu'elle vient de publier. Je remercie Nico, à bientôt, à la semaine prochaine.
Et belle semaine.
Et belle semaine avec des meilleures pièces qui s'annoncent. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Catherine pour une nouvelle page de La Conspiration des planches. Bonne soirée, bonne journée, bonne planche à tous. Et on vous quitte avec un extrait, une interview de Catherine, d'Isabelle Wery pour Ceci est mon corps.
Ce qui m'intéresse surtout dans ce récit, c'est comment elle parle comment elle décrit ses sensations. Pendant les actes d'amour, par exemple, je trouve qu'elle dissèque son plaisir de manière mais extrêmement précise. Et ça, je l'avais jamais lu nulle part.
C'était l'idée de faire un spectacle sur le plaisir sexuel et notamment de la femme?
Pas nécessairement. C'est surtout je suis partie d'une citation de Marguerite Yourcenar, d'ailleurs, qui a rien à voir avec Catherine Millet, mais où elle parle simplement du bonheur d'être en vie, d'avoir ce grand organisme qui nous fait entendre, sentir, goûter, etc. Et jouir aussi, bien sûr. Le spectacle est ouvert sur le corps dans ses multiples façons, capacités à jouir.
C'était le plaisir de faire un hymne au corps ?
Tout à fait. Pour moi, c'est une joie d'être en vie. On vit dans une culture du corps qui est très, très, encore, quoi qu'on en dise, très malmenée par notre passé judéo-chrétien.
Vous parlez de la vie, mais c'est surtout du corps ici, et du corps sexuel ou sexué.
Oui, du corps sexué, c'est vrai. Mais il y a aussi question du corps mourant, du corps en décomposition. Le destin de chacun, c'est de traverser la vie avec cette chair vivante et avec ses multiples fonctionnements, ses litres de sang, ses milliards de globules rouges, d'hormones. Enfin, c'est une machinerie, mais passionnante. Et puis qui se termine en peau qui devient comme fine comme du parchemin. Plusieurs livres ont nourri vraiment la création de ce spectacle, dont La construction d'une érotique solaire de Michel Onfray. Justement, par rapport à ce contexte judéo-chrétien, je trouve que Michel Onfray aide à conscientiser le fait que notre vision de notre corps actuel est encore toute teintée de culpabilité, de honte de soi, que tout ce qui est lié au corps est quelque chose de sale. Ça reste une chose ancrée dans les mentalités, je pense. Et Onfray décrit une forme de sexualité joyeuse, qui est une forme d'hymne au corps et au corps sexué, qui est capable de ressentir des choses magnifiques.
Vous êtes souvent sur un fil érotique.
Dans Catherine Millet, c'est vrai qu'elle utilise les mots très crus. Jamais pour provoquer, mais simplement les choses sont dites. C'est clair que ça peut choquer. J'essaie de ne pas avoir de pudeur trop mal placée ou qui me coupe les ailes.
Alors sur scène, Isabelle Wery, dans vos mises en scène, vous touchez souvent à la matière sensuelle, version érotique. On y voit souvent des barésies, des robes en latex, des perruques blondes platines, des soutiens-gorge visibles, de la dentelle et du rouge à lèvres rouge vif.
C'est vrai que dans Catherine Millet, il y a une espèce d'attirail vestimentaire en latex, voilà, des perruques blondes. Mais c'est aussi parce qu'il y a un personnage, le personnage que j'ai créé, le personnage d'Yvette, qui explore le domaine de la sensualité, de l'amour, qui sait pas trop, qui se déguise en Britney Spears. Donc c'est un personnage qui choisit de s'habiller en latex. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi une certaine esthétique qui est sur le fil de l'érotisme. Ouais, une espèce de cliché aussi, j'en suis consciente.
Et pourtant, le barési chez vous côtoie souvent Shakespeare.
Ouais, c'est vrai que j'aime bien mélanger les univers. Par exemple, j'aime bien dans Yvette, le personnage de Ceci est mon corps, qui écrit aussi. Elle écrit aussi des poèmes. Elle est fermière, elle est majorette et elle récite Rimbaud.
Vous avez publié ici récemment Saison, culotte et amis. Ce sont les divagations érotiques d'une fermière. Est-ce que c'est l'envie de faire un décalage ?
C'est pas l'envie de faire un décalage pour faire un décalage. Pourquoi une fermière ne pourrait pas écrire des poèmes érotiques ? C'est vrai que depuis le travail, par exemple, sur les monologues voilés avec Adelaide Rosen, j'ai cette conscience de... Voilà, être une femme, c'est une chose très particulière, que ce soit physique ou notre place dans la société. Et que j'aime bien cette espèce de confrérie, cette espèce de lien qui nous unit. Et bon, et je suis attentive à ça.
On pourrait avoir quelques lectures, justement, de poèmes « Saison, culotte et amie ».
Jour J, moins 27. Je tuerai dans l'étable, dans la cour, dans le foin, été comme hiver. J'adore, qu'il, elle, que tu, que vous, vache, lapin, y suçote, quelque chose de mes parties initiales. Jour J, moins 21. À la hache, ton sexe d'homme, un boomerang. Bien sûr, à cause des allers-retours, mais surtout regarde sa forme. Rondeur, anguleuse, qui se tige jusqu'aux profondeurs de la nue, racine enfouie, équerre et turgescence. Oh oui, les amis, raconte-moi le boomerang.
La constellation.